Parlons d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour. La pandémie et la crise économique dans laquelle elle a plongé l'Europe creusent les inégalités. Les plus touchés par les licenciements sont les travailleurs précaires et les femmes. Comment corriger cette tendance? Surtout, comment proposer de nouvelles opportunités d'emploi en temps de crise? En Suisse, une philosophe et enseignante à l'université de Lausanne travaille depuis 3 ans à une solution. Son nom, le revenu de transition écologique, le concept verser un revenu à des personnes en contrepartie d'activités orientées vers l'écologie ou le lien social. Au moment où la crise climatique se double d'une crise économique mondiale, le RTE serait pour ses partisans la garantie d'une Europe plus solidaire et écologique. À Genève, les explications de Jérémy Lanche.
Imaginez que vous soyez agriculteur et que vous vouliez vous convertir en bio, ou que vous souhaitiez monter une entreprise de mobilité douce, ou encore que vous vous lanciez dans l'éco-construction. Dans tous ces cas de figure, vous pourriez prétendre au revenu de transition écologique. La chercheuse Sophie Swatton y ajoute 2 conditions, un accompagnement du projet et l'adhésion à une structure démocratique type coopérative, car c'est toute la différence avec le revenu de base. Quand le premier est inconditionnel et individualisé, le RTE, lui, n'est versé qu'en échange d'une activité éco-compatible et qui doit aider à transformer notre modèle économique. On est très loin des expériences menées par exemple en Alaska, où ce sont les revenus du pétrole qui permettent de financer un revenu de base. Des expériences de RTE, il y en a pourtant. En France, notamment à Grande-Synthe, grâce à la fondation créée à Genève par Sophie Swatton et qui finance le dispositif. Mais la Suisse pourrait aussi être une terre de choix pour le RTE, grâce à la vigueur de sa démocratie participative. Des députés ont déjà demandé à leurs parlements locaux d'étudier le lancement d'un RTE et il n'est pas impossible que le sujet fasse un jour l'objet de l'un des nombreux référendums sur lesquels les Suisses sont amenés à voter.
Il est un pays où les inégalités ne cessent de se creuser. Aux Pays-Bas, petit pays parmi les plus riches de la planète, les plus riches sont encore plus riches que ce qu'on pensait. 1% des Néerlandais détiendraient pas moins d'un tiers du patrimoine du pays. Et au moment où le gouvernement hollandais cherche de l'argent pour gérer la crise provoquée par le coronavirus, un quotidien s'interroge : pourquoi ces fortunes ne rapportent-elles pas plus aux caisses de l'État ? Antoine Moutou.
Mais où se nichent les milliards des plus riches? Cette question, c'est celle posée début juillet par le quotidien national de Volkskrant. Selon le journal, les méga-riches néerlandais le sont encore plus qu'on ne le pensait. Le quotidien se base en fait sur des chiffres de plusieurs études récentes. D'abord, celle de fonctionnaires du ministère néerlandais des Finances et de l'administration fiscale. En mai dernier, ces 2 administrations rendaient publics les résultats d'une enquête commune visant à déceler les éventuelles failles du système fiscal néerlandais. Selon cette étude, 400 milliards d'euros de capitaux dorment dans des sociétés à responsabilité limitée basées aux Pays-Bas et qui permettent de payer beaucoup moins d'impôts. Et 400 milliards, c'est 2 fois plus que ce qu'avait estimé l'Institut national des statistiques néerlandais. Autre enseignement, une grande partie de ces 400 milliards d'euros serait détenue par 1% des Néerlandais les plus riches du pays. À cette conclusion s'ajoute celle de 4 chercheurs publiée le 1er juillet dans le magazine économique ESB. Ensemble, ils pointent les inégalités criantes dans la répartition du patrimoine aux Pays-Bas. Selon leurs travaux, et contrairement à ce qu'affirmait l'Institut des statistiques jusque-là, les 1% de plus riches ne possèdent pas 1/6 du patrimoine privé des Pays-Bas, mais 1/3. La publication de ces chiffres coïncide avec une inquiétude de plus en plus forte, celle de voir les inégalités se creuser davantage en raison de la crise du Covid-19. Le mois dernier, les maires de 15 grandes villes du pays ont co-signé un manifeste dans lequel ils demandent au gouvernement de Mark Rutte d'agir rapidement contre la paupérisation de certains quartiers, accélérée, juge-t-il, par la crise actuelle. I thought I was a
gambler. En Autriche, c'est l'addiction au jeu qui risque bien de faire sombrer une partie de la population dans les dettes. Jouer sans pouvoir s'arrêter est devenu un véritable problème de santé publique. En 2018, le gouvernement a tenté de légiférer le secteur, mais a rapidement retiré son projet de loi. Serait-ce dû à des pressions de la multinationale du jeu d'argent, Novomatic ? Depuis le mois de juin, une commission parlementaire enquête sur des soupçons de lobbying de cette multinationale. À Vienne, le reportage de Céline Béal.
Willkommen bei Roulette. Ihre Einsätze bitte.
La commission dite Ibiza, du nom du scandale Ibiza Gate, se penche sur plusieurs affaires de corruption présumées, en particulier dans le domaine des jeux d'argent. Au centre de l'enquête, le lobbying exercé par la multinationale autrichienne Novomatic, le principal acteur du secteur. Avec une question, a-t-elle pu, par le passé, influencer l'élaboration de lois en sa faveur ? Stéphanie Crisper, députée du parti d'opposition libérale NEOS, est l'une des membres de cette commission d'enquête.
Novomatic est un opérateur de jeux de hasard qui a suivi une stratégie très réussie, bien connue dans les médias. Cette stratégie a consisté ces dernières années à tisser des réseaux dans tous les domaines de la société. Il y a de plus en plus d'indices qui font penser que Novomatic a exercé son influence dans beaucoup de domaines, car que ce soit par rapport à la dernière loi sur les jeux de hasard ou encore l'application de ces lois, qui sont pourtant déjà très laxistes, il y a des situations très étranges. Il y a également des faits très inquiétants du côté de la justice.
12 route.
Le soupçon, c'est donc que Novomatic a largement aidé à la mise en place d'une législation qui serait favorable aux opérateurs de jeux d'argent et faillirait à bien protéger les joueurs. Stéphanie Crisper, du parti d'opposition NEOS, demande une loi plus restrictive. Car le jeu d'argent est devenu un problème de santé publique. Rien qu'à Vienne, ce sont 12 à 15 000 personnes qui souffrent d'une addiction. Une situation qui inquiète le docteur Roland Mader, psychiatre dans une clinique viennoise spécialisée dans ces phénomènes de dépendance, l'Anton Proksch Institute. Depuis 20 ans, il dirige le service qui soigne les joueurs compulsifs.
Il y a 20 ans, on a vu l'offre de jeux augmenter d'année en année. Et on a vu aussi de plus en plus de patients dépendants aux jeux arriver chez nous. Aujourd'hui encore, leur nombre augmente, mais le type de jeu problématique évolue. Depuis quelques années, c'est le jeu en ligne qui gagne clairement du terrain, parce qu'il est facilement disponible à toute heure, et puis la technologie des smartphones, qui s'améliore sans arrêt, permet de s'y adonner partout et tout le temps.
Pour empêcher qu'un loisir ne déraille en une addiction, la loi autrichienne prévoit des garde-fous pour les joueurs. Par exemple, un casino doit garder à l'œil ses clients et s'ils perdent trop d'argent, leur interdire l'accès à l'établissement. Mais dans le jeu en ligne, sur des machines à sous virtuelles, la loi est beaucoup plus compliquée à faire respecter. Le psychiatre Roland Mader.
Ces mesures de protection fonctionnent bien sur les sites qui sont enregistrés en Autriche. Il y a une bonne coopération avec eux. Le problème, ce sont les opérateurs qui sont basés en dehors de l'Autriche. Les casinos en ligne, offshore ou dans d'autres pays européens où il n'y a pas ces contrôles et où l'Autriche ne peut pas intervenir.
24 schwarz.
Les sites de casinos en ligne sont en plein développement. Les firmes étrangères qui opèrent en Autriche estiment être dans les clous de la légalité et font valoir la libre concurrence au sein de l'Union européenne. Leur principal concurrent autrichien voit les choses autrement. Le site de jeu Win2Day, qui appartient en partie à la République et à la multinationale Novomatic, est le seul à être officiellement enregistré en Autriche. Pour Günther Engelhardt, porte-parole du site, c'est une garantie de protection pour les joueurs.
Parmi les mesures de protection les plus importantes pour les joueurs, il y a d'abord l'obligation de se fixer une limite aux sommes engagées, ainsi qu'une limite au temps passé sur le jeu. Il y a aussi une limite d'âge, fixée à 18 ans chez nous. Nous vérifions ces informations auprès des banques ou en consultant les données officielles.
Reste que rien n'empêche un mineur d'utiliser l'identité d'un adulte pour jouer en ligne. À Vels, dans la région de la Haute-Autriche, une poignée d'accros au jeu, en voie de guérison, a fondé en novembre dernier une association d'entraide et d'information, car ils considèrent que la loi est trop laxiste. Christophe Oloubar, porte-parole de l'association Spielerhilfe.
La situation telle qu'elle est en Autriche est pour nous insupportable. On ne se préoccupe pas des gens, ou beaucoup trop peu.
Par exemple, selon lui, il est irresponsable de laisser le soin aux joueurs de fixer leurs propres limites. Il cite le cas d'un trentenaire qui s'est adressé à lui il y a peu. Avec un salaire de 1300 euros et 3 enfants à charge, les employés du casino auraient dû s'enquérir du montant de ses revenus, comme la loi le prévoit, et lui interdire de jouer.
Christophe Holubar.
Il est allé jusqu'à 120 fois par an dans un casino sans qu'il y ait eu de mesures de protection qui soient enclenchées.
Pour ce joueur repenti, les responsables politiques se défaussent devant ce genre de problème. Mais il peut maintenant espérer que le travail de la commission d'enquête parlementaire attire l'attention de la population sur ce sujet des jeux d'argent et que les responsables politiques soient motivés pour mieux résister à l'avenir au lobbying des grands groupes. Au ministère des Finances, responsable du secteur, on assure qu'une amélioration de la législation est déjà en préparation, mais qu'elle ne sera finalisée et dévoilée qu'une fois passée la crise du coronavirus.
24 Schwarz.
Direction la Slovénie, dans ce petit pays de 2 millions d'habitants au sud de l'Autriche, les exploitations agricoles sont familiales et plutôt respectueuses de l'environnement. Ici, pas d'agriculture industrialisée. Exemple, la Slovénie utilise 5 fois moins d'engrais que les Pays-Bas. Mais pour les jeunes, le défi est ailleurs, celui de trouver des terres pour pouvoir s'agrandir et vivre de leur activité agricole. Reportage dans 2 exploitations, l'une vinicole à l'ouest, l'autre d'élevage à l'est, signé Frédéric Lebel.
C'est le jour de la fête nationale. La plupart des activités commerciales sont à l'arrêt, mais dans la ferme de Jan Brits, on s'active plus que jamais. Au pied des vignes en terrasse, sa mère, sa femme et sa tante préparent un banquet d'anniversaire pour une cinquantaine de personnes. Dans la salle voûtée attenante qu'il a transformée en salle de dégustation, Jan nous présente ses vins, du blanc, du rouge, du rosé et une quatrième couleur, du vin orange.
C'est un vin blanc qui a macéré plus longtemps avec une fermentation spontanée. Ça lui donne une couleur orange ambrée. On dit que c'est une méthode de vinification à l'ancienne. Il y a des viticulteurs en Slovénie qui ne font plus que du vin orange. Ça marche très bien. Ils disent que c'est bon pour la santé, mais en fait c'est surtout à la mode.
Le tourisme représente aujourd'hui la moitié des revenus de la ferme. Avec le Covid, tout est à l'arrêt. Il a fallu se tourner vers une clientèle plus locale. 7,5 hectares de vignes en terrasse à flanc de colline, ce n'est pas suffisant pour vivre. C'est pourtant la taille moyenne des exploitations slovènes. Le tout jeune agriculteur de 25 ans a bien quelques visées pour acheter le terrain du voisin, mais sans succès.
J'aimerais bien pouvoir m'agrandir, parce que le problème ici en Slovénie, c'est que les parcelles sont très petites, et pour pouvoir en vivre, il faut une exploitation assez grande. Je pense que c'est un problème de mentalité, les propriétaires terriens ne veulent pas vendre. Il y a une très belle parcelle là-haut, bien exposée, mais le propriétaire ne veut pas s'en séparer, même si personne dans sa famille ne veut la cultiver. Alors, à la place des vignes, il y a des arbres. Par exemple aussi, on a voulu acheter 2 hectares à une dame de 94 ans, mais elle n'a pas voulu en nous disant qu'elle en aurait besoin à l'avenir.
Pour faire évoluer les mentalités, il a créé une association des jeunes agriculteurs du littoral. Il le sait, le chemin sera long.
C'est très triste. Je me demande pourquoi il y a si peu de jeunes agriculteurs. Je pense que c'est le reste de l'ancien système, où les parents poussaient leurs enfants à faire des études pour travailler ensuite dans un bureau. C'est à nous, les jeunes, de promouvoir l'agriculture, parce que sans nourriture, personne ne peut survivre.
À plusieurs centaines de kilomètres de là, dans l'est du pays, la crise du Covid est aussi passée par là. L'agriculture slovène produit encore trop peu. Elle ne représente que 2,1% du PIB. Mais pour Jan Merac, qui a lancé un système de livraison à domicile pour ses volailles, la pandémie a été un révélateur.
On s'est vraiment senti indispensable. Nos clients, c'était surtout des familles avec des jeunes enfants qui voulaient avoir une nourriture de bonne qualité. On a eu vraiment plus de commandes parce que les gens aimaient bien l'idée d'une livraison devant la porte sans contact. Ils se disaient, ça va nous sauver. On n'a pas besoin d'aller au supermarché. J'ai commencé avec mon réseau Facebook. C'est très bien, ça permet de comprendre qui te suit et pourquoi on te suit. Donc, je fais toute la publicité sur Facebook. Je prends les commandes moi-même et j'assure la livraison.
Primaire média Facebook. Yann a repris la ferme abandonnée par son oncle. Pour moderniser l'exploitation et agrandir son élevage, il a reçu une aide européenne de 45 000 euros sur 3 ans. Bienvenue, même si la tâche reste immense.
Chaque soir, je me dis « Oh là là, il y a encore un travail de dingue à faire ». Et donc, je termine la journée dans cet état d'esprit. Mais le matin, quand je me réveille, je vois le bout du tunnel. Je commence à travailler avec plaisir et ça me motive.
Dans 10 ans, Yann s'imagine avec 3 élevages de volailles, de porcs et de bœufs. En attendant, faute d'argent mais aussi d'opportunités, il est contraint de louer les terres et les étables d'un voisin.
Young Europeans deserve opportunities, but they face many uncertainties or problems finding a job, and the coronavirus crisis makes it even more difficult for them. They need our support. Now is the time to provide for the next generation.
Les dirigeants de l'Union européenne se sont donné rendez-vous à Bruxelles ce vendredi pour tenter d'adopter un plan inédit de relance face à la crise du Covid-19. Par son ampleur, 750 milliards d'euros, et par son volontarisme politique avec la proposition de mutualiser les dettes des différents pays, ce plan a déjà marqué les esprits. Portrait de la principale architecte de ce plan de relance, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. L'Allemande avait été nommée de justesse il y a tout juste un an à ce poste. Portrait signé Béatrice Leveillé.
Ursula von der Leyen est allemande, mais elle est aussi très européenne, comme l'explique Laurent Varzoulet, professeur d'histoire européenne à l'université de la Sorbonne.
Bon, elle a un parcours essentiellement allemand, mais en fait, elle a une personnalité européenne, puisque c'est la fille d'un haut fonctionnaire de la Commission européenne. Et du coup, elle a passé les 11 ou 12 premières années de sa vie à Bruxelles. Elle connaît bien le français, l'anglais. Donc c'est une personnalité déjà européenne par son éducation. Quand elle était ministre des Armées en Allemagne, elle a également donné quelques discours à tonalité pro-européenne en faveur d'une armée européenne, par exemple. C'était plus des visions de très long terme, mais disons qu'elle a manifesté un engagement européen ancien.
Sa désignation à la tête de la Commission européenne avait suscité de nombreuses critiques en Allemagne. Des critiques qui s'expliquent parce qu'elle s'est battue pour la défense européenne et le droit des femmes à travailler et à avoir des enfants. Laurent Varzoulet.
Elle a fait passer une loi, par exemple, pour construire beaucoup de crèches, pour renforcer les congés maternité, paternité. Et ça, en fait, chez une partie des conservateurs, peut-être plus qu'en France, il y a cette vision selon laquelle la femme peut cumuler carrière et une vie de famille, mais pas quand les enfants sont tout petits. Donc quand Ursula von der Leyen, qui elle-même d'ailleurs a 7 enfants, est devenue ministre, ça a suscité des interrogations à droite pour ces questions de loi, et aussi parce que, comme elle essayait de combiner vie familiale et vie professionnelle, parfois elle avait un emploi du temps un peu particulier. Elle pouvait partir au milieu de l'après-midi pour aller à une fête d'une de ses filles, alors ce qui l'empêchait pas de travailler par ailleurs, mais ça avait créé quelques remous. Donc vous voyez, elle a été contestée, critiquée, peut-être par les plus conservateurs d'une part, et puis d'autre part par les opposants, au contraire, de la CDU, en tant que ministre des Armées.
La présidence de la Commission consiste à arbitrer les désidératas des États membres, un job impossible, mais pour Jean-Dominique Julien, président de la Fondation Robert Schuman, Ursula von der Leyen est capable de relever le défi.
Elle est incontestablement dynamique, elle a des idées, elle partage avec nous Français des idées auxquelles nous sommes attachés. On veut exister davantage sur la scène internationale, on veut défendre davantage nos intérêts, et pas seulement nos valeurs qu'il faut aussi préserver. Et bien sûr, pour cela, de temps en temps, il faut s'affranchir des États membres. Je crois qu'elle saura le faire, parce que c'est une femme de caractère. Et en plus, elle a composer une commission à quasi-parité entre hommes et femmes. Et ça, ça va changer beaucoup de choses dans la gouvernance de l'Union européenne, qui sera vraisemblablement plus subtile, plus intelligente. Et on attend d'elle beaucoup, peut-être beaucoup trop, mais elle a prouvé dans son pays, l'Allemagne, qu'elle pouvait étonner et qu'elle avait un vrai caractère.
Ursula von der Leyen, désormais présidente de la Commission européenne, a été malmenée pendant la pandémie, mais elle fait preuve de détermination pour mener à bien un plan de relance crucial pour l'avenir de l'Union européenne. Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Aujourd'hui, une émission réalisée avec le soutien de la Commission européenne. Pour nous retrouver, nous écouter à toute heure et partout, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr ou notre podcast Accent d'Europe sur votre plateforme d'écoute. À bientôt !